Maybin.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Retour à Ouessan dans nos ribines, il y a longtemps, au temps préhistorique. Ceux qui parlent à Jean-Paul Le Bihan, l'archéologue qui fouille depuis plus de 20 ans le site de Meznotariou sur l'île chaque été. Nous avons vu la semaine dernière comment l'île s'était peuplée dès 8000 ou 7000 avant Jésus-Christ, comment avec l'essor de la navigation vers moins 1500, Ouessant était devenu en quelque sorte une escale technique incontournable pour les marins de passage. Et à présent, Jean-Paul Le Bihan va nous élever l'âme vers les croyances et les mythologies qui ont pu animer les Ouessantins avant l'ère chrétienne, des cultes forcément très liés à l'élément marin.
Alors, fatalement, quand on part en voyage comme ça, à ces époques-là, d'ailleurs que ce soit sur terre ou sur mer, hein, on est toujours accompagné des dieux. Il faut avoir leur bonne grâce, parce que les dieux jouent avec les hommes. Et ils sont ou favorables ou défavorables. Alors, il y a les dieux qui sont favorables, ceux qui sont défavorables. La seule manière, c'est de s'en accommoder. Il faut leur offrir des sacrifices, des banquets, enfin, bon, etc. Cette opération se divise, je dirais, en deux temps. Il y a d'une part l'action de grâce. On remercie les dieux qui ont bien voulu vous permettre d'arriver jusque-là. Et puis après, il faut les consulter avant de partir. Ce sont les oracles, les augures. Il faut consulter. Les dieux ont toujours eu leurs passeurs et leurs médiateurs, en quelque sorte. C'est le clergé. Le clergé qui, à Ouessant, comme ailleurs, représente certainement une catégorie sociale très importante. On a effectivement les preuves des activités cultuelles. Elles sont à Meznotariou, elles sont importantes. Elles sont localisées. Elles s'adressent en fait à la fois à ces activités culturelles, à la fois aux habitants d'Ouessant qui ont besoin de pratiquer la religion, mais aussi à ces hôtes de passage qu'on ne pille pas, qu'on ne tue pas. On n'a jamais vu un commerçant tuer son client la première fois qu'il vient. Il faut qu'il revienne. On prend soin de lui. Moi, l'histoire du naufrageur, ça me fait un peu rigoler. Non, au contraire, il faut qu'il se sente bien et qu'il ait envie de revenir. Simplement, il va effectivement payer son droit de passage d'une certaine manière. Alors, ça peut se faire par le canal de la religion. On paye les dieux et en même temps on paye les hommes. Ils vont payer l'abattage d'un certain nombre de moutons et puis ça va se traduire par un grand banquet auquel toute la population sera invitée. Là c'est très très difficile de savoir parce qu'on n'a pas les textes précis et les rituels. D'autant qu'une partie du bétail peut être aussi immolée dans cette zone cultuelle, dans la pratique quotidienne. Même dans l'époque romaine, toute viande abattue est abattue sous l'égide du clergé. C'est un passage là aussi obligé en quelque sorte. Dire quel banquet a été fait le jour où des marins étrangers étaient là et d'autres non, on ne sait pas. Et ce qui est bien montré, c'est que tous les objets d'origine franchement étrangère, sauf quelques cas, sont découverts, à 90-95% sont découverts dans cette zone d'activité rituelle. Ou bien dans les tombes, mais là c'est autre chose, mais c'est vraiment là qu'ils sont stockés. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des cadeaux qui ont été faits, et alors là, il y a tout ce que les marins transportaient, il va y avoir des perles qui viennent d'Égypte, ou qui viennent au contraire des perles d'ambre qui viendront de la Baltique, des vases fabriqués très loin et qu'on va retrouver dans cette zone de sanctuaire. On a un type de perle dit de Fratesina, un atelier de la région de Trieste, où au moment de sa découverte, on connaissait trois exemplaires, un en Iran, un dans les Alpes et un à Ouessant. On a une perle à visage humain qui est fabriquée dans les ateliers d'Alexandrie. On en connaît d'autres exemples à Jérusalem. Le marin se déplace et il a des produits pondéreux, le vin, mais il y a aussi des produits à forte valeur ajoutée, qui sont très légers et qui peuvent être ou vendus très cher et effectivement notamment pour acheter les minerais, mais qui peuvent être délestés au fil du voyage pour payer le pilote, pour payer tous les services rendus, la nourriture qu'ils vont embarquer, tout ça. En fait, on n'a pas de véritables traces concrètes en ce qui concerne la navigation. Le site n'est pas au bord de la mer. Si on fouillait au port d'Arlan, par exemple, on aurait peut-être une chance de trouver. Alors, à un moment, on s'est demandé si certaines grosses pierres percées ne servaient pas à cela. Mais très souvent, ces encres sont plutôt dissymétriques. La perforation est un peu excentrée. Il y a aussi l'usure de la corde. Bon, on n'a pas ces choses-là. Le cromlech d'Arlan, lui-même, qui existe depuis manifestement l'âge du bronze et qui est lié manifestement à l'observation astronomique, au calcul des éclipses, des choses comme ça, pouvait forcément servir d'amère. Alors là, on débouche sur une autre dimension de l'île, qui est à la limite entre, ben, quand même malgré tout la navigation, Mais l'astronomie et la religion, c'est lié à la position d'Ouessant, qui n'est pas unique, mais qui est particulièrement intéressante, en ce sens que vous avez une vision formidable vers le sud. Alors, pourquoi vers le sud ? Mais tout simplement parce qu'il se trouve que le Soleil se déplace au sud, que la Lune se déplace au sud, et il se trouve aussi que dans tout l'archipel d'Ouessant, vers le sud-sud-est, vous avez des tas d'îlots et de pointements rocheux qui permettent de faire des repères, d'avoir des repères, et pour les calculs de déplacement au fil de l'année des astres, positionnement des astres, est très utile. Et le Kremlin est lui-même un monument. Bon, il faut se fier aux travaux d'Yvon Georgelin, ancien directeur du laboratoire d'astronomie de Marseille. Un Kremlin est un monument qui inclut 19 pierres. Et ces 19 pierres correspondent, selon lui, aux 19 années du cycle lunaire. C'est-à-dire qu'au bout de 19 ans, la Lune réapparaît au même endroit à l'horizon et qui permet à ce moment-là de calculer. Alors, ce Kremlin est situé à la pointe sud-est, d'où vous avez une vue plongeante sur tout l'archipel d'Ouessant, également sur le continent, c'est-à-dire une quantité considérable de points de repère. Du sommet de l'île, vous voyez la Manche, l'Atlantique et toute la mer d'Iroise. Moi, j'ai eu la chance extraordinaire en 2007 d'assister à un phénomène astronomique qui se produit une fois tous les 49 ans et qu'on voit quand on est au bon endroit et un jour de beau temps. À 7h du matin, j'ai constaté que le 27 juillet 2007, c'était une pleine lune et la lune était en train de progressivement descendre. Elle était gigantesque, on la voyait encore très bien et elle allait plonger dans la mer. Et au même instant, à la même seconde, j'ai vu émerger de l'autre côté, à l'est, au-dessus de la Terre, j'ai vu émerger le soleil. Un plein gros soleil bien rouge. Ce phénomène, j'en ai parlé justement à Yvon Georgelin, il m'a dit ça. L'occurrence comme ça, quasiment la seconde près, c'est une fois tous les 49 ans. Il est évident que si on tient compte du fait qu'il faut au moins une bonne minute, près d'une minute pour que la Lune disparaisse totalement et le moment, à ce moment-là, les occurrences sont plus nombreuses. Peut-être tous les 10 ans, vous pouvez voir le phénomène. Mais c'est quand même, il est évident qu'il s'agit de phénomènes rares et qui ne peuvent pas, si un astronome ou un individu voit ça dans l'île, il le signale, il dit, c'est extraordinaire. Et automatiquement, clac, on fait une entaille sur le bâton à compter les phénomènes et on commence à calculer. Et ça sert après aux astronomes, qui sont aussi les prêtres, etc., pour enregistrer, assister au lever à partir d'Arlan. Tout le monde pense toujours au lever du soleil, cérémonie magique, au solstice, etc. C'est oublié qu'en fait, c'est un monument qui est plutôt dédié à la Lune. En Abkhazie, j'ai vu un superbe Kremlin, et non seulement il y avait un rang, mais il y avait trois rangs de pierres. J'ai compté le rang central, il y avait effectivement les 19 pierres. Alors à Ouessant, il a été un petit peu déménagé, remué, et on tourne autour de 20-21, ça dépend comment on compte, mais on est dans le schéma. Toutes ces choses-là, justement, intéressaient fortement Pythéas, et c'est à partir de là, de ces observations-là, en Atlantique, qu'il a pu réfléchir sur le décalage entre la Lune et les heures de marée, s'apercevoir qu'il y avait effectivement une coïncidence, et formaliser d'un point de vue scientifique ce que, manifestement, les populations locales connaissaient et ne pouvaient pas ignorer. Et depuis, pour reprendre l'expression consacrée, la nuit des temps. L'heure de la lune, le décalage, les grandes marées, etc. Parce que les grandes marées, c'est aussi signe de surabondance. Il y a des tas de choses que vous pouvez attraper aux grandes marées que vous n'avez pas aux petites marées. Donc pour la vie quotidienne, tout ça est important, mais aussi éventuellement pour la navigation. Il y a une relation qu'on n'avait pas vraiment sentie, une relation entre le mouvement des astres, la mer, la vie quotidienne, la nourriture et la navigation qui est très 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 fort. Il semble que l'un des coquillages qui symbolise cette relation est la patelle, la bernique, dont un exemplaire en bronze, ce qui est une chose unique dans l'archéologie européenne, un exemplaire en bronze a été découvert sur le sol de la zone de sanctuaire parmi les animaux, les objets sacrifiés. Il y avait un poignard pas très loin, enfin en bronze. Bon, l'interprétation que j'en donne, c'est que cet animal n'était pas, si modeste soit-il, n'était pas innocent, puisqu'il passe justement la moitié de sa vie dans l'eau et la moitié hors de l'eau, plus cette forme pyramidale qui est quand même une forme géométrique assez symbolique, qui pointe au soleil, qui pointe aux astres en quelque sorte. Qu'il y ait eu autour de cet animal ou toute une symbolique ne serait pas du tout étonnant. J'ai fréquemment comparé la bernique au bousier, qui est aussi un animal tout à fait médiocre, mais qui, dans la religion égyptienne, est devenu le scarabée, qui pousse le soleil justement pendant la nuit, qui lui permet de réapparaître. Ici, avec la bernique qui est dans l'eau, dans l'air, qui pointe un peu au soleil, on est peut-être dans des symboliques du même ordre. Elle a été découverte dans les restes de banquets, mais d'animaux qui ont justement été sacrifiés, le mot étant à mettre entre guillemets, mais en tout cas, ou sélectionnés, puisque 70% sont des, pour le bétail, sont des épaules droites. C'est-à-dire qu'ils font partie d'un processus et on commence à se poser la question de savoir si l'oursin n'a pas aussi participé à de telles manifestations. Marie Van Der a remarqué avec justesse que certaines stèles gauloises découvertes dans la côte du Léon, pas très loin de la mer, avaient au sommet un décor qui pouvait ressembler à celui du test d'oursin. Je me demande si là justement le dessin du test d'oursin qui partage le monde n'est pas non plus en liaison avec une représentation du monde, avec ses différents quartiers. La Terre est un oursin. Autre indice qui laisse entendre que la patelle avait une fonction peut-être importante, c'est qu'elle était utilisée dans l'ornementation des fours. Ils étaient incrustés, il y avait des incrustations de patelles dans des parois de fours, et pas uniquement dans la zone de sanctuaire, mais aussi dans la zone d'habitat ou dans la zone artisanale du village. Vous avez encore des pratiques semblables. J'ai vu récemment dans le désert libyen des fours du Moyen-Âge exhumés, sur lesquels il y avait aussi des plumes d'oiseaux plantées, etc. C'est-à-dire que le four culinaire, le four familial, a aussi une dimension religieuse sacrée. C'est le cœur de la famille, c'est la survie, etc. C'est le foyer. Il a aussi une dimension symbolique. Et là aussi, on retrouve justement la bernique dans cette représentation symbolique de la vie quotidienne. C'est une forme d'abondance, parce que dans la mesure où effectivement, ces berniques sont très très nombreuses. Mais là, il faudrait peut-être d'ailleurs se méfier, parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, bon, où il y avait période de privation, etc., les populations, notamment ça a été étudié sur les côtes du Morbihan, les colonies de bernique, la quantité de bernique a considérablement diminué parce que c'était un recours à l'alimentation ultime. Donc, si on a 500 ou 600 habitants qui vivent dans l'île à ces périodes-là, s'ils s'en servent de manière quotidienne pour la nourriture, il faut peut-être une gestion à ce moment-là un peu raisonnable. Sans ça, on épuise le stock. C'est peut-être c'est une idée là qui me vient au cours de cette interview. C'est peut-être un des produits, une des denrées qui justifiait une économie, enfin une gestion raisonnée.
En plus des tomes 1 et 2 du livre « Archéologie du Nil à la pointe de l'Europe » Ouessant, dirigé par Jean-Paul Le Billon et édité par le Centre de recherche archéologique du Finistère et les presses universitaires de Rennes, je vous invite à lire aussi sur ce sujet des cultes préhistoriques ouessantins l'article de l'archéologue dans le numéro 487 de la revue Archéologia d'avril 2011.